Ok, nous allons aller aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7 et nous lirons les 10 premiers versets. Luc 7, 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas venu. Que je ne me suis pas cru digne d'entrer, d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ainsi donc parle la parole de Dieu. Et le titre que je donne à ce message, c'est le Sauveur, la religion et la foi. On verra que ça, en fait, c'est tout à fait une coïncidence, mais ça reprend assez ce qui a été donné aux enfants ce matin. Mais on peut s'y attendre parce que toute la vie du Seigneur, la vie sur la terre du Seigneur, était une confrontation avec les religieux à la recherche de ceux à qui il donne la foi. Donc ici, on va mettre un peu comment, d'arrière-plan. Luc est dans Luc, Jésus est en Galilée. C'est ce qu'on appelle le grand ministère galiléen. Il a déjà été en Judée, il est maintenant en Galilée. Il y reste une bonne partie du temps que couvre sa vie sur terre, enfin son ministère public tout au moins, avant de retourner en Judée. Il est ici en Galilée et il a donné beaucoup d'enseignements. Si vous regardez avant, vous voyez que Jésus a donné ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Alors le sermon sur la montagne, c'est un petit peu de la sténo pour tout l'enseignement qu'il donne pendant ce grand ministère galiléen. Il enseigne des tas de choses, notamment qui concernent la vie dans le royaume de Dieu. La vie, on dirait aujourd'hui la vie chrétienne. C'est-à-dire que la vie chrétienne qui est la vie dans cette nouveauté de vie. Et puis, il a choisi aussi 12 apôtres, 12, un petit cercle restreint. C'est ceux qui vont continuer l'œuvre qu'il fait, qui le continueront après l'ascension. Et puis, il arrive maintenant à une série, il a déjà fait des miracles, mais il arrive maintenant à une série de miracles, à une série d'enseignements par le geste. C'est une chose qu'on a déjà dit ici ensemble, mais qu'il est bon de répéter. Jésus enseigne par la parole, et il enseigne aussi par le geste. Il va enseigner, donner des enseignements, des leçons, donner des comment? Oui, il va donner des doctrines, des vérités, leurs implications comme on irait aujourd'hui dans un sermon, d'où le mot sermon sur la montagne, mais aussi il va être impliqué à guérir les gens, à poser des questions aux pharisiens, aux religieux. On a vu notamment tout à l'heure une question qu'il pose. Alors, ils posent les questions pour le piéger, mais ne le piègent pas. Lui, il pose des questions pour les mettre face à la réalité, et en fait, il se trouve piégé. Mais chaque fois, dans tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il dit, répétons-le toujours, il parle de lui-même. Il se révèle lui-même. Et c'est merveilleux. Donc ici, dans ce passage, on a le récit d'un miracle, un miracle de guérison. Et ce miracle parle de Jésus d'une manière particulière par rapport aux autres miracles. On va le voir, je pense, assez clairement. C'est intéressant que nous avons ici, dans notre passage, trois, on dira, pas des belligérants, mais trois caractères, trois personnages, on pourra dire. Il y a le sauveur, il y a l'homme religieux, il y a l'homme de foi. Alors c'est très intéressant parce que des trois, il y en a un qu'on ne voit pas. Enfin, on le voit, mais on ne le rencontre pas. Quelqu'un qui ne rencontre pas Jésus, on a tendance à penser à la fin, le centenier a rencontré Jésus, mais le texte ne le dit pas. C'est intéressant parce que Matthieu, quand Matthieu parle de ce passage-là, il dit, et c'est important pour nous de le souligner brièvement, il dit que le centenier a dit à Jésus, le centenier est venu à Jésus. Mais en fait, il n'est pas venu à Jésus. Il est venu, mais à travers quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous allons voir un peu plus tard. Il y a donc le sauveur, les religieux et l'homme de foi. Et des trois, il y en a deux qui sont un miracle et l'autre qui est universel mais qui n'est pas un miracle. Vous vous doutez tout de suite de qui je parle. Mais voyons ici maintenant le passage. C'est un passage très simple, c'est un passage très graphique. En fait, je ne pense pas qu'on puisse lire cela sans se trouver à Capernaum. Vous avez jamais, nous n'avons jamais voyagé à Capernaum, pourtant on est allé à Capernaum, même ce matin. On a lu et on a vu, en fait. Mais voilà, donc Jésus vient d'enseigner tous ses discours. Hein, donc il y a probablement tout un circuit qu'il a fait où il a enseigné dans plusieurs synagogues, il a enseigné sur le côté d'une montagne et ainsi de suite. Mais après tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, ces choses ne sont pas faites en secret. Voilà qu'il arrive à Capernaum. Alors, c'est assez simple. Jésus de Nazareth. Et une fois qu'il a commencé son ministère public, habite très certainement à son siège social, on dirait aujourd'hui, son point central, son point focal à Capernaum. C'est en fait une ville assez stratégique. Elle est en fait, à partir de Capernaum, on peut se trouver dans toute la Galilée très rapidement, à cause des vallées. On peut aller descendre dans la Judée le long du Jourdain facilement, et on peut passer de l'autre côté de la mer facilement aussi, et puis Capernaum est une ville importante. Mais considérons déjà le Sauveur ici. Il entre dans Capernaum. Alors on prend les choses tout à fait pour acquises, on cesse de lire la réalité. Mais déjà là, nous avons l'Évangile. Nous avons la merveille de l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le Sauveur n'est pas de Capernaum. Le Sauveur n'est pas de Nazareth. Le Sauveur n'est pas de ce monde. Il est venu. Il a été envoyé. C'est Jésus le Christ. Le salut de l'Éternel est envoyé. Donc quand Jésus arpente les rues de Capernaum, qu'il arpente les voies de la Galilée, nous avons déjà l'Évangile. Il est envoyé. Il est venu. Et c'est un Évangile, c'est une bonne nouvelle dans le fait que Dieu n'est pas le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des Mormons qui a envoyé des plaquettes d'or, je crois, ou des choses comme ça avec des lunettes spéciales, n'est-ce pas, pour voir, hein? Ça, il fallait être américain pour le pont, n'est-ce pas? Mais non, il n'a pas envoyé ces choses comme ça, et puis débrouillez-vous. Et on voit ces pauvres gens qui doivent arpenter le monde entier pour expliquer tout ça. Non, Il est venu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est la chose merveilleuse. Il est venu, le peuple a pu l'écouter. C'est-à-dire, ce n'étaient pas les théologiens, c'était les gens comme vous et moi, c'était les gens ordinaires. On se rappelle même qu'un endroit où il enseignait, les gens étaient tellement collés à son enseignement que finalement ils oubliaient la nourriture et vient le moment où il faut les renvoyer. On ne peut pas les renvoyer le ventre vide. Et il y a même un jeune garçon qui est présent avec sa nourriture. Et voilà, Jésus enseigne, il est là même pour tout un chacun, pas simplement pour les théologiens, pas pour les religieux, pas pour les gens universitaires, certainement pas pour le roi, mais il est là pour le peuple, pour tout un chacun, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et le peuple écoutait. Est-ce qu'ils entendaient? Ça, c'est encore autre chose. Mais même ce garçon, ce jeune garçon, pouvait entendre Jésus. Et nous reviendrons à cela tout à l'heure. Mais il est là, et Jésus est quelqu'un qui n'est pas simplement un personnage de papier, un personnage imaginaire. Quand nous allons, je ne sais pas si vous avez lu l'Odyssée ou l'Iliade, mais au moins on en connaît des bribes. Nous avons des personnages qui sont devant nous, mais ces personnages, on ne pourrait pas les rencontrer dans la vie normale. Ils sont spéciaux. Mais Jésus, on pourrait. En fait, Jésus, on le rencontre dans la vie normale. Mais il est là. Et regardez, nous avons au verset 2, un centenier avait un serviteur, nanana. Verset 3, ayant entendu parler de Jésus. Jésus est un homme qui est dans notre monde et on parle de lui. On parlait de lui à cette époque-là, on parlait de lui avant, mais on parle de lui aujourd'hui. Et je ne me rappelle plus les détails, mais c'est quelqu'un qui nous rendait visite et qui a dit, on passait à côté, en ville, on passait à côté d'un kiosque à journaux, un kiosque à magazine, et quelqu'un a dit, « Ah, voilà un livre, un magazine qui est très intéressant. » Ça parlait de Jésus. Vous savez, chaque année, à l'approche de Pâques, il y a un magazine qui va sortir avec quelque chose au sujet de Jésus, au sujet du fait est-ce qu'il est encore connu aujourd'hui et tout cela. On parle de Jésus. On parle de Jésus. Et c'est important. Aujourd'hui, on parle de Jésus d'autant plus qu'il a un peuple qui a mandat de parler de lui. Et aujourd'hui, on a les chrétiens qui vont à droite, à gauche, dans la vie ordinaire, mais des fois aussi dans des situations créées de toutes pièces pour cela, pour évangéliser, on dira, c'est-à-dire pour parler de ce Jésus. Il est dans le monde, il est encore dans le monde, et on parle de lui. Et c'est cette parole, cette connaissance de lui qui, en fait, fait la différence. Alors, je ne suis pas encore en train de parler de la foi, mais c'est cette ce fait qu'on parle de lui qui fait la différence. Il n'y a pas de gens qui sont ignorants dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ignorent Jésus, c'est-à-dire en fait qu'ils ne veulent pas entendre parler de lui, qui répriment cette connaissance. Mais elle est là, elle est là. Encore ce matin, je lisais, ou c'était même hier, non, c'est hier, j'entendais quelqu'un qui parlait de quelque chose qui a duré pendant longtemps. Ça s'était fait 6 siècles avant Jésus-Christ et on en parlait encore, ou on le faisait encore 6 siècles après Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Alors certains veulent parler de notre ère, c'est peut-être plus facile certaines fois, mais on parle de Jésus-Christ quand même, vous voyez. Donc Jésus le Sauveur est là et ce Sauveur est quelqu'un à qui on peut venir. Le centenier pouvait envoyer quelqu'un et les Juifs qui étaient envoyés venaient à Jésus-Christ. Les gens, le peuple, au verset 1, le peuple qui l'écoutait, c'était des gens qui étaient allés à Jésus-Christ. Il était venu à eux, mais ils étaient allés à lui. Il y a une rencontre là et c'est quelque chose de très important pour nous à saisir que ce monde n'est pas un monde qui est simplement à l'abandon. Un peu comme le morceau de bois qu'on laisse couler le long du ruisseau. On l'a déjà fait, nous, avec les enfants. On voit le ruisseau qu'on suit pendant un moment, et puis on va voir jusqu'où le bout de bois il va suivre, n'est-ce pas? Et on a l'impression des fois que les gens vivent comme si ce monde est quelque chose qui coule à l'aventure. Non, 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 non. C'est un monde où on rencontre, où il y a la possibilité de rencontrer Jésus. Est-ce que nous avons rencontré Jésus? Est-ce que nous le rencontrons? C'est ça le danger des fois. On a une tellement bonne, un bon témoignage, une bonne histoire que ça peut être dans le passé. Mais les bénédictions d'hier ne sont pas bonnes aujourd'hui, ne servent à rien aujourd'hui. Non, on le rencontre. Les Juifs viennent à Jésus, envoyés par le centenier. Et Jésus va vers la maison du centenier. Donc nous avons ici quelqu'un qui est très présent. Et il est présent encore aujourd'hui. Et je me demande si dans notre familiarité, on oublie ces choses-là. On met ces choses-là en oubli. J'aime bien cette expression. On les met en oubli. Ce n'est pas simplement qu'on les oublie. Ça, c'est plutôt l'âge qui fait ça. Non, on les met en oubli. C'est-à-dire qu'on est trop occupé pour Jésus. Est-ce que nous sommes trop occupés pour Jésus? Mais il y a aussi une autre dimension dans laquelle Jésus vient. C'est que ce Jésus, ça n'est pas n'importe qui. Ça n'est pas un sauveur boulanger. La multiplication des pains, rappelez-vous, les gens ont couru après Jésus le lendemain, mais quand il leur a dit « Non, 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 ça n'est pas simplement pour votre ventre, mais il faut que vous veniez à moi. » Là, il n'avait plus de temps pour lui. Ça n'est pas un sauveur politique, ça n'est pas un sauveur à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Non, c'est le sauveur ici particulier. Il vient. Et même le centenier lui dit « Non, ne viens pas jusqu'à chez moi, je ne suis pas digne. » Mais Jésus va jusqu'à chez lui. Alors, il n'entre pas personnellement, mais le serviteur est guéri. Est guéri. Est-ce que Jésus est venu à nous de cette manière-là? Est-ce qu'il nous a guéris? Alors, on sait que cette guérison, c'est une image de la nouvelle vie, de la régénération. Mais ça n'est pas simplement une image de la régénération. C'est le fait que Jésus vient avec la puissance de guérison, c'est-à-dire avec cette nouveauté de vie. Est-ce que je vis en nouveauté de vie ou est-ce que j'ai simplement un témoignage du passé qui me permet, une assurance vie éternelle, qui me permet d'être religieux? Vous voyez la différence? Le Sauveur ne vient pas chez les religieux, mais il vient chez ceux chez qui Dieu donne la foi. Donc, le Sauveur, est-ce que nous connaissons ce Sauveur? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il demeure là? Parce que, autant qu'on sache, Jésus n'est pas entré dans la maison, physiquement, n'est pas entré dans la maison du centenier. Mais chaque jour, le centenier, chaque jour de sa vie, se lève et il voit Jésus dans sa maison. Parce que son serviteur le sert. Alors, de quelle maladie est-ce que le serviteur souffrait? On ne sait pas. Il est même possible qu'il souffre d'une petite maladie simplement, mais qu'il soit âgé. On verra ça peut-être un peu plus tard si nous avons le temps, mais ce n'est pas très important. Mais chaque jour, il voit son serviteur qui le sert, le centenier voit son serviteur qui le sert, et en fait, il voit Jésus. C'est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que nous voyons la vie chaque jour comme la vie que Jésus a transformée? Et même le croyant va regarder le monde, regarder la nature, regarder tout ce qui se passe, la providence, d'une manière différente, différente. Le Sauveur. Mais nous voulons avancer dans le texte. Et j'ai dit que nous voyons trois personnages. Donc le deuxième personnage, beaucoup moins intéressant que le Sauveur, on pourrait dire des tas d'autres choses là sur le Sauveur, mais les religieux, l'homme religieux. Et cela nous concerne de façon très importante, comme Philippe l'a souligné au moment où il parlait pour les enfants, où il nous parlait à tous en fait. L'homme religieux, ça n'est pas l'autre, ça n'est pas quelqu'un qui est là-bas, ça n'est pas un pharisien. L'homme religieux, c'est un homme, c'est un être humain. Nous sommes tous religieux, et nous sommes tous religieux plus qu'on le pense. J'ai remarqué, il y a certaines manières même dont on prononce les mots qui ne sont pas normales. On va annoncer, par exemple, le numéro d'un cantique d'une manière différente qu'on donnera un numéro de téléphone. Je ne vais pas plus loin. Remarquez la prochaine fois qu'on donne le numéro d'un cantique. On le donne d'une manière religieuse, assez souvent. Nous sommes religieux, c'est ça que je veux dire. Il y a suffisamment en nous qui est humain pour que nous soyons religieux. Maintenant, regardons ces religieux et essayons de voir dans quelle mesure on est religieux. Parce que l'homme religieux n'est pas quelqu'un qui possède Dieu. Et dans la mesure où on est religieux, notre religion est un écran à l'intimité avec Dieu. Ces hommes-là ne peuvent pas rencontrer Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Ils cherchent à plaire à Dieu, mais selon leurs termes. Ils sont tellement pleins de leurs termes qu'ils n'ont pas de place pour les termes de Dieu pour cette rencontre. Voyons ces religieux. Alors, les religieux, ce sont des anciens des Juifs. Alors ici, on a vraiment les religieux des religieux. C'est des gens qui ont poussé l'art de la rencontre avec Dieu jusqu'à un art, justement, jusqu'au détail. Il ne fallait pas le faire de telle manière et tout cela. On a parlé du téléphone que le Juif n'utilise pas. Aujourd'hui, à cette époque-là, il y avait une certaine distance qu'on pouvait faire le sabbat, mais pas plus, et ainsi de suite. Mais regardez ces Juifs, ils arrivèrent auprès de Jésus. Donc, le religieux n'a pas peur de venir vers Jésus. Ne pensons pas que quiconque vient à Jésus vient avec la foi. Il peut venir avec la religion. Mais écoutez ensuite, et ça c'est très très intéressant, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Alors c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que c'est la manière dont il faut venir au Seigneur Jésus. Il faut le prier Seigneur, mais vraiment avec sincérité, avec ardeur, et que sais-je encore. Et ici, ces hommes-là, ils ont cela. Ils viennent avec une certaine sincérité. Nous allons voir. Sincérité en quoi? Mais ils viennent certainement avec une grande ardeur. Et ils le supplient. Ils le supplient. Alors, quand on vient supplier quelqu'un, on va venir avec des arguments. On va venir avec des choses qui donnent une pression. Et c'est là que l'homme religieux se révèle. Écoutez-les. Ils arrivèrent auprès de Jésus, verset 4, et lui adressèrent d'instantes supplications, disant. Donc on ouvre l'oreille et on écoute. Il mérite, c'est-à-dire le centenier, mérite que tu lui accordes cela. Tout de suite, on voit sur quelle base se trouve la religion. Et rappelons-nous que nous sommes concernés. C'est la base du mérite. La base du mérite. C'est très intéressant parce que le mérite est toujours sur les œuvres. Toujours, toujours, toujours. Donc là, ils sont sur la base des œuvres. Et c'est exactement ce qu'ils disent. Le centenier mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi ? Il aime notre nation, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Il a fait quelque chose, donc il mérite. Or, la Bible, du début jusqu'à la fin, montre que le salut ne vient pas sur la base du mérite. Même le passage qui nous a été lu tout à l'heure, à la fois dans le psaume 40 et dans Hébreux 9, qui est un peu obscur pour nous, mais tu n'as désiré ni holocauste ni sacrifice, tu n'as pas désiré des œuvres, même des œuvres religieuses. Mais tu m'as préparé un corps, c'est-à-dire tu as envoyé un sauveur. Bon, on pourrait vraiment passer du temps dans ce passage. Même qu'on a eu ce grand enseignement sur Hébreux, on pourrait y revenir. Mais en fait, c'est cela, c'est donné par grâce, ce n'est pas des choses qu'on fait et donc qui nous méritent cela. Mais les juifs sont tous, les religieux, je veux dire, sont toujours sur la base des œuvres. Maintenant, si aujourd'hui, ce matin, vous vous êtes levé et pour quelque raison biologique, vous vous sentez en pleine forme, vous avez passé un moment merveilleux avec le Seigneur avant de venir au culte, vous avez prié d'une façon dont vous n'avez pas prié depuis longtemps. Alors vraiment, inconsciemment, dans notre tête, le Seigneur mérite de nous donner un très très bon culte. Nous méritons qu'il nous donne, n'est-ce pas? Il est sous obligation, parce que franchement, on est là, on ne peut pas ne pas être béni. Nous sommes dans la situation des religieux, exactement ceux-là. Mais ça va même encore plus loin, parce que ces gens-là révèlent vraiment ce qu'il y a dans leur cœur. Et ils révèlent ce qu'il y a dans notre cœur la plupart du temps quand nous agissons par nous-mêmes. Regardez, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime ton nom. Il t'aime, toi? Non. Il aime notre nation. Notre nation. Et si jamais le Seigneur venait à ce moment-là et leur disait, mais moi j'aime des gens de toutes les nations, ce qu'il a dit à Abraham, leur père, n'est-ce pas? Il l'a dit qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seront bénies et tout ça. Si le Seigneur leur dit ça, ah, alors là, ils le haïssent. Ils le haïssent. Non, ce centenier mérite la bénédiction de Dieu parce que il a aimé ou il aime la nation des Juifs. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Vous voyez, la religion, c'est quelque chose d'horizontal. D'horizontal. Alors, on pourrait dire le contraire si on ouvre simplement les yeux, parce que nous allons dans la nature, dans les villages, tout ça, nous voyons les clochers. Et toujours, le clocher, faut qu'il soit plus haut. Je me rappelle être à Casablanca et voir cette grande, grande mosquée qui est plus haute que toutes les autres du monde, apparemment. Et ça pose des problèmes à certains parce qu'en fait, leur religion ne dit pas qu'il faut faire ça. Mais ici, regardez, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti quoi? Notre synagogue. Qu'est-ce qui fait le cœur de la religion? Et c'est important pour nous, je le rappelle. Parce que c'est tellement facile d'évacuer la religion parce qu'on est religieux. Parce qu'on est évangélique religieux. Et il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui est le cœur de la religion? C'est ce qui frappe les yeux. Et tout à l'heure, on a mentionné les pharisiens qui étaient avec tous leurs atours et qui se levaient, qui se mettaient au coin des rues, se levaient dans le temple pour qu'on les voie. N'est-ce pas? Or, la véritable religion, la véritable vie, c'est quoi? Le Seigneur nous le dit dans le lieu secret. Il vient de le dire, puisqu'il vient de prononcer le sermon sur la montagne. Le lieu secret. Mais non, la religion, c'est, faut le voir. Et cela touche à tout moment. Et cela touche dans les endroits les plus sacrés. Vous parlez, vous donnez témoignage du Seigneur. Et tout d'un coup, vous surprenez à dire quelque chose de vraiment profond. Et vraiment, vous êtes subjugué, même au point de vous arrêter. J'espère que la personne a bien entendu, parce que c'était vraiment chouette. Hein. Ou alors, vous priez à haute voix dans le cercle de l'Assemblée, et tout d'un coup, vous pensez, ah, mais là, vraiment, j'espère que tout le monde écoute bien, parce que je suis inspiré. Non? Ça arrive, trop souvent. Mais le prédicateur n'est pas immunisé contre ça. Il est là et il voit quelqu'un qui a les yeux rivés sur lui. Il écoute, il a l'impression qu'il peut entrer jusqu'au fond. Là, tout ça. Non, non, ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Ou alors, au pire, il va se trouver à se découvrir, à dire quelque chose de merveilleux, qui l'émerveille lui-même. Et il va essayer de tourner le message de telle manière à le répéter. Parce que franchement, c'est trop beau, il ne faut pas louper l'occasion. Qu'on admire son plumage, comme disait M. Spurgeon, hein, ou son ramage. Mais on sait ce qui s'est passé, il a perdu le fromage dans la fable. La religion est toujours là. Et ce qui est le cœur de la religion, c'est ce qui frappe les yeux. Or, la religion véritable, ce qui compte avec le Seigneur. Parce qu'il frappe, c'est ce qui est au cœur de la religion, mais ce qui frappe le Seigneur, c'est ce qui ne se voit pas, ce qui ne se sait pas. Que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait. Va dans le lieu secret. Tu fais le jeûne, que personne ne le sache. C'est cela, n'est-ce pas, la vraie religion. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Et il nous faut reconnaître que très souvent, nous sommes touchés par ces religieux, par cette religion qui est ce que nous avons amené dans le monde. Mais Dieu merci, si nous sommes à Christ, si nous sommes en Christ, cette religion-là, nous la laisserons dans ce monde. Il n'y a pas de religion dans le ciel. Il y a une union. Et c'est ce que Dieu fait en Christ. Donc, les religieux, et ils nous enseignent, n'est-ce pas? Ils viennent à Jésus, ils adressent d'instantes supplications. Ne nous laissons pas tromper par cela. Il y a des gens qui prient comme des anges, qui en fait ont un cœur comme un diable, comme des diables. Les religieux, ceux qui frappent les yeux. Passons maintenant à l'homme de la foi, l'homme qui est touché par la foi. Parce qu'il nous faut faire attention, il nous faut faire bien attention. Ici, il est dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Mais il ne peut pas admirer l'homme, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il admire? Portons-nous vers l'évangile selon Jean, et nous savons que Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il n'a pas besoin que les religieux viennent et lui disent, mais il mérite que tu guérisses, hein, il mérite que tu ailles là. Viens, viens, non, franchement, tu ne peux pas te passer de ça. Écoute, regarde, il nous a bâti notre synagogue, et tout, et tout, et tout. Non, non, Jésus n'a pas besoin de ça. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Et il admire le centenier, pourquoi? Parce qu'il voit l'œuvre de son esprit. C'est pour ça qu'il parle à Nicodème en Jean 3 et qu'il ne fait pas confiance aux autres juifs qui croient en son nom. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme, il voit qu'en Nicodème, l'esprit est à l'œuvre. Ce pauvre Nicodème qui avance dans le salut à l'envers, à reculons, et les autres qui sont tellement comme des coqs, comme des paons, Jésus ne les regarde pas, il sait ce qu'il y a là. Et ici, nous voyons le centenier, mais en fait nous ne voyons pas le centenier. Nous voyons la foi que Dieu a mis dans le centenier. Car voici l'homme, c'est un homme qui a la foi. C'est intéressant, comment est-ce qu'il peut avoir la foi? Verset 3. « Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. » Deux choses ici. Et peut-être quelqu'un va m'accuser de tirer le texte un peu trop, d'étaler le texte un peu trop, mais je ne pense pas. Verset 3, « Ayant entendu parler de Jésus », et c'est un point important pour nous aujourd'hui, où l'Église se prostitue à faire n'importe quoi au nom de Christ. La connaissance de Christ se répand par la parole parlée. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre d'entendre cela de la part d'un éditeur. Mais même la parole imprimée, c'est la parole parlée. La plupart des livres seront des messages qu'en fait on entend pratiquement. Je parlais la semaine dernière avec ce frère qui est avec nous et qui n'a pas connu Dr. Lloyd-Jones, dont on a certains de ses livres. Moi, je lui dis, moi, je ne peux même pas lire le livre maintenant. Je l'entends parce que j'ai entendu l'homme prêcher. Vous voyez, c'est la parole, c'est en fait la parole exprimée verbalement qui révèle le Christ. Le Seigneur n'a pas daigné, si on peut dire, inventer la photographie avant la venue de Christ. Alors, il y a peut-être des tas de raisons. Mais je pense qu'une des raisons, c'est qu'on n'a pas de photo de Jésus. C'est une bonne chose. Parce que c'est ayant entendu parler de Jésus que cet homme envoie les Juifs. Et il les envoie parce qu'il a la foi. Sinon, il serait venu. S'il n'avait pas la foi, s'il était religieux, il serait venu parce qu'il voulait voir Jésus. Là, il n'a pas vu. Alors, il l'a peut-être vu dans la rue. Mais il ne l'a pas vu en tant que interlocuteur. Autant qu'on sache, dans notre passage, le centenier ne voit pas Jésus. Nous n'avons pas le centenier présent ici. C'est intéressant, n'est-ce pas? deux choses, j'ai dit. La première, c'est qu'il a entendu parler de Jésus. Et peut-être c'est quelque chose qu'il nous faut prendre à cœur pour nous-mêmes, qui avons plutôt tendance à être, pas réticents, mais lents peut-être, à aller vers les autres. Hein? Il a entendu parler de Jésus. Est-ce que les gens autour de nous ont entendu parler de Jésus parce que nous connaissons Jésus? Mais deuxième chose, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. La foi n'est pas sourde et la foi est agissante. C'est la caractéristique de la foi qui ressort le plus. La foi est agissante. Je me rappelle ce monsieur qui avait de l'urticaire à chaque fois qu'on parlait de l'œuvre de foi. Ah, mais il y a une œuvre de foi. Ça n'est pas l'œuvre de foi dont les religieux parlent, mais c'est la foi agissante dans l'amour. Deux choses ici donc. Hein. La foi entend parler de Jésus et cette écoute n'est pas stérile, n'est pas oisive. Au verset 1, on entend le peuple qui écoutait Jésus, mais nous n'avons pas la réaction plus loin que cela. Mais ici, regardez, il entend parler de Jésus, il envoya quelques anciens. Donc, la foi ne reste pas à rien faire. La foi n'est pas là à attendre que Jésus vienne sur ses propres termes. Ça, c'est très important aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre parler de Jésus, mais pas simplement sans condition. Il faut qu'on les caresse dans le sens du poil. Il y a quelques années, il y a une dame qui voulait bien entendre parler de Jésus, mais elle ne pouvait pas venir à l'église. Mais où est-ce qu'on entend parler de Jésus aujourd'hui? Vous voyez? Et après les années, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y avait même aucun désir. D'autant plus que le jour où quelqu'un est venu lui parler, elle n'était pas prête à écouter même chez elle. Non, c'est important, agissant. Est-ce que notre foi est agissante? Est-ce que nous rencontrons une foi ainsi? Mais comment est-ce que la foi agit? Comment est-ce que la foi agit? Et la foi agit dans un tout autre registre de la religion. On n'a pas besoin de voir. Parce que la foi croit. Et là où on voit, il n'y a plus besoin de foi. C'est en fait ce que la Bible nous dit. Cet homme, en fait, a réfléchi à ce qu'il a entendu. Et il a vu qu'il a ici quelqu'un qui est puissant. C'est en fait ce qui ressort de ce qu'il dit. Quand il explique à Jésus, quand il fait expliquer à Jésus pourquoi il l'a fait envoyer vers lui. Regardez, Seigneur, le Seigneur est déjà en route. Hein? Verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Est-ce que la foi du centenier va dire, bon, ok, maintenant les circonstances sont ainsi, on va le laisser venir. Non, 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 non. La foi, en fait, ne cherche pas à voir, mais la foi voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Première chose qu'elle voit, c'est la grandeur de Jésus. Regardez, il envoya des amis pour lui dire, Seigneur, Seigneur. Or, c'était le mot qu'on utilisait pour César. Seigneur, le roi. Vous voyez, c'est un centenier qui parle. Elle voit la grandeur de Christ. Et la deuxième chose qu'elle voit tout de suite, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne. Les religieux ont dit, il mérite. Lui dit, non, non, Seigneur. Seigneur, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Et en fait, je ne serais pas surpris de voir que le monsieur a fermé à clé la porte. Non, 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 Seigneur, parce que si jamais tu entres, là, je suis dans la difficulté. Je ne suis pas digne que tu viennes. Vous voyez, la foi voit des choses que le religieux ne voit pas. La foi voit, mais elle ne voit pas les choses qui se voient. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Bien sûr. Abraham, qui en fait a vu l'invisible, mais il est le père des croyants, le père de ceux à qui la foi est donnée. Et le centenier, étant habité par cette foi, il voit des choses véritables. Et cela lui montre, en fait, la réalité du Seigneur. Regardez, c'est je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. La foi voit et elle agit en fonction de ce qu'elle voit. Alors, la religion voit et elle agit en fonction de ce qu'elle voit. Mais une chose est horizontale, l'autre chose est verticale. Ici, la foi du centenier lui a révélé la grandeur de Christ. Il a entendu parler des miracles qu'il a faits. Il a entendu parler de l'enseignement qu'il a donné. Et là, il voit que cet homme-là, il n'a pas besoin de venir, en fait. Regardez, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Parce que quelqu'un qui a l'autorité que tu as n'a pas besoin de venir chez moi pour le toucher, pour quoi que ce soit. Ici, nous avons un homme qui est probablement fatigué de la religion. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il était en contact avec les Juifs. Et les Juifs avaient des procédés extrêmement compliqués pour exorciser. Et il est possible qu'il leur ait fait appel. Je ne sais pas, ça n'est pas dit. Mais voilà un homme qui est fatigué de la religion. Et il est en face de Jésus qui est différent. Il dit, toi, tu as la puissance. Toi, tu as l'autorité. Et lui-même est un homme d'autorité. Et il dit, regarde, je dis quelque chose à un tel. Et il va. Je n'ai pas besoin d'aller faire la chose pour lui. Et toi, Jésus, tu as une telle puissance que tu dis. Et la santé va venir à mon serviteur. Nous avons un homme qui n'est pas israélite. Nous avons un homme qui n'a pas encore vu Jésus. Autant qu'on sache, mais il le connaît. Il le connaît. Parce que Jésus, il y a une chose de sûre, c'est qu'il n'a pas besoin d'aller toucher le serviteur. Et cet homme le sait, les Juifs ne le savent pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne vient pas du monde. L'homme de foi est un homme nouveau. C'est un homme qui n'est pas de ce monde. C'est un homme qui n'est pas à l'aise dans ce monde. Vous voyez. Et nous avons toute cette parole qu'il donne. Je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Pourquoi? En fait, il admire l'œuvre de son Père, l'œuvre de son Esprit dans cet homme. Et c'est ce que nous voulons voir. Est-ce que nous admirons la foi que Dieu a mis en nous? Beaucoup de nos doutes disparaîtraient si nous admirions la foi que Dieu a mis en nous. Parce que si nous regardons la foi que Dieu a mis en nous, nous ne regardons pas nos échecs, nos limitations, nos ci, nos ça qui sont de nous et qui nous font douter, n'est-ce pas? Nos mauvaises œuvres, non, vous voyez. Il admira le centenier et se tournant vers la foule, rappelons-nous, la foule sont des Juifs qui le suivaient, et il y a les chefs des Juifs là, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors pour nous, on n'est pas choqué par une telle parole. Mais les Juifs ont dû être extrêmement choqués, extrêmement choqués. Essayons de regagner la force de cette parole. Même dans le peuple choisi, le peuple spécial, je n'ai pas trouvé une telle foi. En fait, il dit, mais vous dites, les enfants d'Abraham, vous prenez pour acquis que Dieu est votre Dieu et que vous êtes la nation de Dieu. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus est en train de leur montrer la véritable nouvelle alliance. Ça n'est pas pour les Juifs, mais c'est pour les croyants. Et si nous nous tournons vers le passage parallèle, il y a quelque chose qu'il ajoute, ou plutôt qu'il a déjà dit. Regardez au Matthieu chapitre 8, et nous allons commencer Enfin, on regarde le passage qui commence à verset 5, on va même le lire, parce que vous allez voir le parallèle est très intéressant. Donc, Matthieu 8, c'est Luc 7 et Matthieu 8. Verset 5. « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. » Vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, quelqu'un va nous dire « Mais ces deux textes se contredisent. » Non, ils ne se contredisent pas. Il y a certaines choses qui sont dites dans un qui ne sont pas dites dans l'autre. « Le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc là, c'est assez parallèle, n'est-ce pas, hein? Mais regardez maintenant. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Alors là, c'est la bombe. C'est la bombe. Il y en a qui vont venir de l'Orient. Bon, pour nous, ça ne dit rien, parce que notre terre est ronde. Mais pour eux, elle n'était pas ronde, dans leur concept. Et tout ce qui était à l'est de Jérusalem, à l'est de la Palestine, c'était en fait tout ce qui était éloigné de Dieu. Vous avez Caïn, par exemple, qui sort de la présence de Dieu, quand Dieu le confronte, et il va vers l'est. Et toujours ils vont vers l'est, quand ils s'éloignent, bon, c'est une imagerie juive, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est la réalité, mais quand on part l'imagination des juifs, et ils parlent à des juifs, quand on va vers l'est, on s'éloigne de Dieu. Mais il y a des gens qui vont venir de l'est, et ils seront avec Abraham, avec Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, à table, vous voyez. Il y en a qui viennent de l'Occident, ils n'étaient même pas encore sur la carte, comme on pourrait dire, à l'époque. Ils vont venir de partout et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils parlent du salut. Le salut va être pour des gens qui ne sont pas d'Israël, mes amis. Même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. Jésus est en train de choquer les Juifs, choquer les religieux, mais il ne les choque pas pour les damner. Ils sont déjà damnés, d'une certaine manière. Mais il les choque pour les réveiller. Et il continue. « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, dans la perdition. » Est-ce qu'on peut perdre son salut? Non, on ne peut pas perdre son salut. On peut perdre le salut qu'on s'est fabriqué. Oui, ça, le plus vite on le perd, le mieux ça vaut. Mais on ne perd pas le salut de Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? « Mais ceux qui se pensent les fils du royaume... » Mais les religieux, mais ceux qui pensent qu'on mérite la grâce et la guérison de Dieu, ceux-là, ils seront jetés dans les ténèbres. Et vous voyez comment le salut renverse tout. Ceux qui pensent qu'ils méritent, en fait, ils n'obtiendront rien. Et ceux à qui on n'accorde aucun mérite, ceux qui sont les chiens du dehors, en fait, ils seront à table. Ils seront à table. Et le salut est merveilleux. Le salut est merveilleux. Parce qu'en fait, il enlève tout ce qu'il y a de l'homme dans la chose. Tout ce qui peut périr, tout ce qui est instable. Récemment, j'ai eu beaucoup de contacts avec des jeunes dans des églises en Afrique de l'Ouest. On a correspondu à travers le net. Et même en dehors du bâtiment d'église, ils me posaient la question. Et il y a une question qui les turlupine sans arrêt. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Encore l'autre jour, est-ce qu'on peut perdre son salut? Alors, il faut faire attention à répondre, parce qu'on ne sait pas s'ils ont le salut. On ne sait pas si ce qu'ils ont, il vaut mieux qu'ils le perdent ou quoi. Mais le salut de Dieu, on ne peut pas le perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de l'homme dans ce salut. S'il y avait un tout petit peu de l'homme, un peu de libre arbitre, un peu de décision, un petit peu de bonnes œuvres quand même. On est venu à Christ, non? C'est quelque chose qu'il a vu d'avance. Et tout ça, on peut le perdre. Parce que l'homme est inconstant dans ses voies. Tu as décidé pour Christ aujourd'hui, qui est-ce qui va t'empêcher de décider contre Christ demain? On le voit. Hein? Même des gens qu'on aime, un jour, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai même vraiment trouvé de bien chez eux? Non, le salut ne se perd pas. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend, il ne contient rien de l'homme. Rien, rien, rien. Et c'est pour cela qu'il faut être absolument intransigeant dans le fait que le salut, c'est le salut de Dieu de A à Z. Je suis sauvé par ma foi. Non, non, non. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi que Dieu a mis en nous. Et c'est par grâce. C'est par grâce. Et donc, nous avons ici le Sauveur qui est envoyé par grâce. Les religieux qui ne connaissent rien de la grâce, ils méritent parce qu'il a construit notre synagogue. Si un jour, quelqu'un a place dans notre cœur parce qu'il nous a bâti une église, alors on est vraiment fichu, n'est-ce pas? Et puis il y a l'homme de la foi, ce centenier, cet envahisseur, hein, cet ennemi, cet homme qui est un étranger en Israël, il a la foi supérieure à tout ce que le Seigneur a trouvé en Israël jusqu'à ce moment-là. N'est-ce pas merveilleux? Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous marchons selon cette foi? Parce qu'il y a suffisamment d'exhortations dans les épîtres du Nouveau Testament pour montrer qu'on peut ne pas marcher dans cette foi, même ayant reçu cette foi. Est-ce que nous avons cela? Et est-ce que c'est le salut que nous annonçons continuellement? Un salut qui n'a rien de l'homme. La nouvelle alliance a été contractée avant qu'il y ait un homme pour même en faire partie. Et puis, ici nous sommes dans Matthieu, Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » La foi est une puissance. Elle nous met en présence de cette puissance de Dieu, n'est-ce pas? Une puissance qui guérit. Le Sauveur, les religieux et l'homme qui a reçu la foi de Dieu. Où est-ce que nous nous plaçons? Quel est notre message? Quelle est notre vie? C'est à nous de nous mettre devant la parole de Dieu et de voir les choses qui ne se voient pas comme si elles étaient. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. La preuve. Si bien que ce centenier a une foi qui fait étonner Jésus d'une certaine manière et qui le fait s'émerveiller. Que le Seigneur nous donne de marcher dans cette foi tous les jours de notre vie pour sa gloire. Amen.